ce matin, on a commencé de parler de la gloire du Seigneur. J'ai vous partagé que depuis, je sais pas, quelques années maintenant, le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur ce sujet de sa gloire. Jusqu'à chaque fois que j'ouvre ma Bible, je trouve sa gloire. C'est partout là. Et j'ai trouvé aussi que moi-même, hein, je ne peux pas dire pour vous, mais pour moi, j'ai eu une idée, une conception de la gloire qui est plutôt de l'Ancien Testament que le Nouveau. Et le Seigneur, il voudrait vraiment changer ça. Parce que moi, je suis convaincu que la chose qui va accomplir toutes ses plans, tous ses désirs au fin de temps, c'est sa gloire dans son Église. Amen. On a regardé ce matin dans le livre de Colossiens. On a dit que Colossiens a été écrit vers la fin de la vie de Paul. Et on a vu comme une évolution dans son révélation, dans son ministère. Vers la fin, il a dit, j'ai une révélation du mystère glorieux de Dieu. Et ça, c'est pour les païens même. Christ va habiter en eux, et Christ en eux, c'est l'espérance de la gloire. Il a dit, c'est lui que je prêche. Je prêche Christ en toi, l'espérance de la gloire. Pas juste Christ, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et j'ai dit que ça a changé un peu. On voit dans 1 Corinthiens que Paul, il a dit que je connais rien plus que Christ crucifié. Il y a une différence, hein, entre je prêche Christ, Christ crucifié, et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. La révélation a évolué dans la vie de Paul. Et en fait, il n'a pas abandonné Christ crucifié, ni Christ ressuscité. Mais en fait, le but de Christ crucifié et Christ ressuscité, c'est Christ amener plusieurs des fils en gloire. Le but a été sa gloire dans son Église. Un peuple glorieux. Comme lui. Amen. Regardez avec moi encore 1 Thessaloniciens. Voilà. Chapitre 2. Et on va lire encore verset 13 à 14.
C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez.
Ça, c'est 2 Thessaloniciens 1.
quelqu'un me dit, hein, c'est quoi ça?
Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. On peut voir là un processus, une progression, je peux dire. Hein? On a été choisi devant le fondement de terre. Le Seigneur l'a dit, on a été choisi pour le salut, pour la sanctification, tous les deux par la croyance dans la vérité, afin que on peut posséder sa gloire. Amen. Il voudrait que nous sommes les possédeurs de sa gloire. Amen. Ça, c'est sa but pour nos vies. Et nous, trop souvent, on a mis le but très bas. Pour nous, c'est juste échapper cette vie et monter au ciel. Avec le sang fumé un peu. Et avec les flammes derrière, alors. Hein? Mais pour lui, hallelujah, ils attendent une église glorieuse. Et comment l'église peut être glorieuse si toi et moi, nous ne sommes pas glorieux? Nous sommes l'église, hein? Chaque pierre, il faut que chaque pierre prenne sa portion de sa gloire afin que la maison peut être glorieuse. Amen. Alors, ce matin, j'ai dit que ce soir, on va commencer pour regarder trois moyens par lesquels on peut posséder cette gloire. Peut-être il y a plus que toi, sûrement il y a plus que toi, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai découvert toi. Et pour moi, ça suffit. J'ai même pas arrivé à la toi, alors. J'ai pas besoin de quatrième, cinquième. Toi suffit pour aujourd'hui, alors. Amen. Alors, le premier, Romains 12. Souvent, je trouve que je retourne à Romains 12. Je me rappelle, en fait, j'ai dit ce matin, Manuela, la première fois que j'ai vous rencontré, toi et Luc, vous avez habité toujours à Malouse. Et on a rencontré dans votre salon. Et j'ai partagé de Romains 12. C'est toujours le même. Je partage la même écriture. Alors, ça change pas, hein? Oui. J'ai entendu quelquefois, quelque part, je sais pas, qu'un pasteur, il a dit à l'église, vous êtes comme Jésus, vous changez pas. Et le peuple, ils ont réfléchi un peu, c'est bon ou pas, ce qu'il dit alors. Moi, je change pas. Ouais, non, ça c'est pas vrai. Romains 12 et verset 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Amen. Stop, Paul a dit, en fait. Stop d'être conformé à cet siècle présent, ou on peut dire cet système mondial. Stop! Peut-être vous avez remarqué que dans le monde, il y a toujours la pression. Et le but de cette pression, c'est que nous sommes formés dans la ressemblance de ce système mondial. L'ennemi, il voudrait vraiment que nous, l'Église, nous sommes semblables avec le monde. Et partout, on voit les petites choses qui entrent dedans l'Église, qui rendent l'Église comme le monde. Depuis des générations, le Seigneur, il a bougé, il a agi avec les réveils grands, forts, formidables. Et après quelques générations, cet mouvement a été arrêté et vraiment comme le monde. Ils ont adopté une façon de penser comme le monde. Et le problème avec ça, c'est quand l'Église ressemble le monde, l'Église ne peut pas avoir un effet sur le monde. Même les pécheurs comprennent que l'Église a abandonné l'appel de Dieu. Amen. Plusieurs endroits, l'Église fait toutes les choses sociales. Je ne suis pas contre les choses sociales. Mais si on met les choses sociales dans la place de l'Évangile, on a un vrai problème. Stop, Paul dit, d'être conformé à ce monde, ce système mondial. C'est l'ennemi, la Bible nous dit, qui est le dieu de ce monde. Ce système mondial, c'est le contraire du royaume de Dieu. C'est l'opposé. Satan est le dieu de ce monde. Ce monde existe dans le ténèbre. La motivation de le système mondial, c'est moi, 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 moi. Jésus est le dieu, le royaume de Dieu. L'atmosphère, c'est lumière. Et la motivation, c'est vous. L'amour. C'est l'opposé, exactement. Et partout, par les médias, le gouvernement, système d'éducation, Hollywood, partout, on a cette pression d'être conformé de ce monde. Paul, il a dit, stop! Je dis, ok. Qu'est-ce que c'est l'alternative? Soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Change notre façon à penser. Amen? Ok, vous me demandez, C'est où la gloire là? On parle de la gloire et le moyen par lequel on peut posséder cette gloire. Le mot ici, soit transformé, c'est le mot grec métamorphose, métamorphosé. Et ça dit amener de l'intérieur quelque chose vers l'extérieur. Et nous avons en nous quoi? La gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ, il est en nous. Ça, c'est pas juste quelque chose qu'on dit. Quelque chose, bon chrétien, viens, sois né nouveau, et Christ, il va habiter dans vos vies. C'est pas juste quelque chose qu'on dit, c'est réalité. Jésus, il vient. Il prend résidence dans notre vie. Et moi, j'ai découvert quelque chose. Quand il vient, il prend toutes ses affaires avec lui. Amen. Toutes ses bagages, alors, plusieurs des valises, hein. Il arrive et il est plein de bagages. Amen. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut faire, il amène avec lui quand il entre nos vies et maintenant ça réside dedans. Amen. Et c'est bon que ça réside dedans, mais c'est mieux que ça sort. Si ça reste dedans, ça bénit personne. Même pas nous. Quand ça sort, ça bénit tout le monde. Amen. Sois transformé. Conformé à... On a une image de pression de l'extérieur. Transformé, on a l'image de pression de l'intérieur. Amen. Il y a quelque chose dedans qui voudrait sortir. Amen. On voit dans le Apocalypse, c'est marqué Jésus, il est à la porte, il frappait, il voudrait entrer et avoir la communion fraternelle avec nous. Pour nous tous, il a entré. Maintenant, il frappe la porte encore et c'est laisse-moi sortir. Amen. C'est bien dedans, mais c'est mieux l'extérieur. Alors, je voudrais être manifesté dans ta vie, pas ta vie. Amen. Et chaque fois que Jésus, il manifeste lui-même, c'est glorieux. Ça, c'est la gloire, la manifestation de Christ dans nos vies. Ça, c'est la gloire. C'est bien qu'on a la colonne de feu, c'est bien qu'on a le nuage et tout ça. Ça, c'est aussi la gloire. Mais quand on comprend ce que le Seigneur il voudrait accomplir avec sa gloire, il faut que c'est quelque chose de plus pratique que le nuage qui entre et tout le monde tombe. Amen. C'est bien sur le sol, mais... on ne peut pas accomplir beaucoup pour le royaume, là. Amen. Beaucoup peut être accompli en nous, mais après, il faut qu'on remonte et aille avec sa gloire. Sois transformé. Ce mot-là, c'est le même mot grec qui est utilisé quand Jésus il a monté sur la montagne avec Jacques, Pierre et Jean, et ils ont rencontré là Moïse et Élie. Et Jésus, il a été transfiguré. Et quand il a été transfiguré, qu'est-ce que c'est le résultat? Qu'est-ce que ça a été le résultat? Il a brillé. C'est ça, briller, ça marche? Amen. La gloire qui était en lui a été manifestée. Amen. Transfiguré, transformé, c'est le même mot, c'est la même idée. Pour Jésus, ça a été instantané. Voilà. Comme ça. Amen. Pour nous, hein, c'est un processus. Mais il faut qu'on commence ce processus. Soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Changer comment on pensait. Et le plus on change, le plus que nos pensées viennent comme la pensée de Dieu, le plus sa gloire peut sortir. C'est comme nos pensées sont comme une porte. Et si on ouvre la porte, c'est une porte dans nos âmes. Et la porte est bien fermée. Nous sommes transformés et la porte commence d'être ouverte. Pas l'habitude d'être ouvert alors, hein? On a besoin d'une bonne dose d'huile alors, hein? Kora masandara bakahas. Amen. Et quand la porte s'ouvre, sa gloire commence à sortir. Amen. Sois transformé. Renouvelle votre intelligence. Changez notre façon de penser. La Bible nous dit, alors, regardez. C'est Ésaïe 55. Hallelujah, j'ai le temps. Je vais développer un peu ici. Question. Toujours avec moi les questions. Comment on peut connaître si nos pensées ont besoin d'être renouvelées? Il y a un test ici. Ésaïe 55. Oui, verset 8 et 9, ça suffit, je pense.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées.
Amen. Ici, on voit une relation très forte entre les pensées et les voix. Le Seigneur a dit, mes pensées, ce n'est pas tes pensées. À cause de ça, tes voix, ce n'est pas mes voix. Comment on peut savoir si un endroit dans nos vies, une façon de penser a besoin d'être renouvelée? Regarde tes voix. Si tes voix sont différentes que Dieu, il faut qu'on change comment on pensait dans cet domaine particulier. Amen. Oh. Le Seigneur, il n'a pas dit, tes voix, ce n'est pas mes voix, et désolé, mais c'est comme ça, et ça sera comme ça à jamais. Désolé, voilà, tu es comme ça. Il n'a pas dit ça. Amen. En fait, il a nous donné la solution. Il a continué, il a dit, verset 10, « Comme la pluie descend du ciel, la pluie, la neige descend du ciel, et ça ne retournait pas sans effet, ainsi ma parole qui sort de ma bouche, ça pas retourné sans être efficace. Ma parole va jamais retourner vide, le Seigneur l'a dit. Et comme la pluie, la neige change le terrain et rend le terrain capable d'être fructueux, sa parole vient sur le terrain de nos vies, de nos pensées, et ça change nos pensées, et ça rend nos pensées capables pour marcher dans ses voies. Amen. L'effet de sa parole retourne jamais vide. L'effet, c'est que nos pensées sont changées afin que nos voies puissent aussi être changées. Amen. Et si on trouve que nous sommes quoi? Frustrés. Si on trouve que nous sommes toujours malades. Si on trouve que nous sommes toujours sans provision. Si on trouve que nous sommes écoutés les voix de Dieu, fais que sa parole pluie dans ta vie. Amen. Et ça va changer ta vie. Moi, j'ai fait une école biblique. Et dans cette école, la foi à la guérison était très importante. Et moi, la première année, j'étais là, j'étais malade. Presque toute l'année, j'étais malade. J'ai eu la grippe 4-5 fois le même hiver. Et enfin, j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Je suis malade tout le temps et je crois en guérison. » Et elle m'a dit, « Je sais, mais tu crois plus en maladie? » Et c'est difficile pour disputer avec ça quand je suis le malade alors, hein? Mais j'ai compris que le Seigneur, il m'a dit, il faut, Jeff, que tu changes tes pensées. J'ai eu 29 ans, 30 ans, quelque chose comme ça, quand j'ai été converti. Et j'ai eu 30 ans de pensées de maladie dans mes pensées. Ah oui, c'est octobre maintenant, alors, hein? C'est la saison de grippe, hein? Ça arrive, hein? Alors, il faut que je vais aux pharmacies pour amasser tous les médicaments, alors, tu peux jamais dire, hein, quand cette grippe va arriver. Et je dis, oh, ben oui, c'est ça, alors, hein? Mes pensées ont été ça. Et c'est difficile d'être guéri avec un cœur plein de maladies. Amen. Et j'ai commencé. Matin après matin, pour laisser la parole neiger dans ma vie. Et enfin, quelque chose a changé. Mes pensées ont changé. Et je n'ai pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, la maladie a Avant, j'ai eu un problème avec la maladie. Maintenant, la maladie a un problème avec moi. Et c'est mieux ça. Je n'ai pas encore arrivé. Je suis toujours en route. Mais mes pensées ont changé. Et mes voix sont plus comme les voix du Seigneur. Moi, je n'ai jamais trouvé un endroit où Jésus a été malade. Ni le Père, ni le Saint-Esprit. Maladie n'existe pas au ciel. Maladie, c'est le fruit de la mort. Et la mort est le fruit du péché. Pas nos péchés, le péché d'Adam. La Bible nous dit, quand Adam a péché, la mort a entré la création. La création de Dieu a eu rien provision pour la mort. Ça n'existe pas. Je ne dis pas que si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Ce n'est pas ça. C'est parce que Adam a péché. La mort existe dans ce monde à cause du péché et maladie fait partie de la mort. Mais c'est comme j'ai dit, hein? J'ai regardé mes voix et ça suffit. Il faut que quelque chose change. Et j'ai commencé pour changer mes pensées et la réalité de Christ en moi a commencé à sortir. Amen. Amen. C'est comme ça, hein? Le renouvellement de l'intelligence. C'est sa parole qui frappe les endroits rocailleux dans nos pensées et donne la possibilité pour changer. Amen. Voilà. Le premier moyen par lequel on peut posséder sa gloire, soit renouvelé au niveau de l'intelligence. Parce que quand nous sommes renouvelés, on sera transformé. Ce qui est dedans va sortir. C'est comme le papillon et le chenille. Hein? C'est le même processus. Ce n'est pas magique, hein? Que le chenille est transformé comme papillon. Ce n'est pas magique. Hein? C'est un processus. Le papillon a été né dans le chenille. Mais il faut qu'il sorte. Et quelle différence, hein, entre le chenille et le papillon? Quelle différence entre nos voix et ses voix? C'est le même, hein? Et le Seigneur, il nous appelle. Marche dans mes voies. Et on a fait les choses très légalistiques afin qu'on puisse adapter ses voies. Fais ça, 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 fais pa, 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 ta, ta, ba, 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 ba. Mais ça ne marche pas. Ça ne change rien. Si on garde la loi, ça ne change rien. En fait, ça fait pire. Le seul moyen par lequel on peut changer, c'est par l'opération de sa parole et son esprit. Amen. Quelle transformation, quelle gloire. Amen. Alors, le deuxième moyen, on peut aller jusqu'à quoi? Alors, hein? OK, ça va. Mais on a encore deux m'asseoir alors, hein? Éphésiens 1. Et là, ça commence vers verset au 17 que Paul il prie. Et après on lit le premier 14 versets, on comprend qu'on a besoin de prière. Paul il marche dans ces versets, c'est juste tac, 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 il fait comme une liste, tac, 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 de toutes les choses tellement merveilleuses, on peut prendre un seul et on peut étudier pendant des années. Mais Paul le fait pop, pop, pop. Par exemple, il a dit, verset 3, nous avons été bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Verset 4, il a dit qu'il a nous choisi devant le fondement de le monde. Voilà. Verset 5, nous avons été prédestinés. Verset 6, nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Verset 8, il a fait que sa grâce abonde vers nous. Il a nous donné la connaissance de ses mystères. C'est paf, 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 paf. Il fait le. Attends. Je suis toujours à verset 3. J'ai même pas commencé à comprendre verset 3. Et il continue. Tac, 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 tac. C'est pourquoi je suis content qu'il a prié. Alors j'ai besoin, Paul. Prie pour moi, s'il te plaît, après tout ce que tu as dit. J'ai besoin pour l'aide du Seigneur pour absorber tout ce que tu as dit. Et il a prié. Et il a dit, verset 17, il a adressé, je peux dire, cette prière, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Il n'y a pas beaucoup de choses comme ça. Le Père, il est nommé le Père de Jésus-Christ, le Père des Lumières et le Père de Gloire. C'est tout dans le Nouveau Testament. Le Père de Gloire, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit qu'il est le Père de qui la gloire vient. Il est le Père qui a une nature de gloire. Et il est le Père qui fait la gloire en nous. Amen. La gloire, c'est son nature. Dieu est lumière. Qu'est-ce que c'est la source de la lumière? La gloire. La gloire est la lumière et la manifestation de sa gloire. Souvent, on trouve cette idée que Hébreux 1, Jésus a été la brillance de sa gloire. Amen. Lumière vient de la gloire. Amen. Le Père de gloire. Tout ce qu'il fait, c'est vers le but qu'il peut engendre sa gloire dans nos vies. Amen. C'est le fleuve créatif de Dieu qui vient vers nous et qui produit en nous tout ce qu'il est. Sa gloire. Père de gloire. Amen. Paul, il adresse son prière vers le Père de gloire. Et il a prié que le Père va nous donner un esprit de sagesse et révélation. Comme j'ai dit, après tout ce qu'il a dit en le verset avant, on a besoin d'un esprit de sagesse et révélation. Il a dit, quand cet esprit, il arrive, il va accomplir trois choses dans nos vies. L'esprit de sagesse et révélation, il dit, esprit de sagesse et révélation dans sa connaissance, afin que les yeux de notre compréhension, ou on peut dire les yeux de nos cœurs, soient illuminés. Ça, c'est la première chose. La troisième chose, c'est verset 19, et qu'est-ce que c'est la grandeur de sa puissance qui viennent vers nous qui croient. Et il continue, il parlait beaucoup de cette puissance. C'est la même puissance qu'il a exercée quand il a ressuscité Christ de la mort. La puissance qu'il a utilisée quand il a ressuscité Christ, il dit, cette puissance, ça coule vers nous. Ça coule abondamment vers nous. Ça nous dit qu'il y a une puissance disponible pour l'Église qui est plus grande que la puissance qui a été disponible pour Jésus quand il a marché sur la terre. Amen. Le Père, il a sorti son puissance le plus fort et il a ressuscité Jésus-Christ. Et cette même puissance, maintenant, il envoie vers nous. Cette puissance, elle n'était pas en manifestation quand Christ a marché sur la terre. Imagine. La puissance de la vie, de la résurrection, ça agresse vers nous. C'est pas comme ça. Pof, 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 c'est... Ça agresse vers nous, cette puissance. Oh là là, hein? Ça, c'est la troisième chose. J'ai dit la première chose, j'ai dit la troisième chose. La deuxième chose, c'est que j'ai pas dit la première chose, en fait. Hein? Qu'on va connaître qu'est-ce que c'est l'espérance de son appel. Amen. Après, il dit, et qu'est-ce que c'est les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. J'ai marqué ça dans vos Bibles.
Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints?
Amen. La richesse de la gloire qui habite, demeure dans l'héritage, cet héritage qui appartiennent pour les saints. C'est nous. Nous avons un héritage. En fait, nous avons le même héritage que Jésus. La Bible nous dit en Romains 8 que nous sommes co-héritiers avec lui. Amen. On a le même héritage que Jésus. Amen. Et la Bible nous dit ici que cet héritage est plein, plein, plein riche en gloire. Et quand on prend possession d'une portion de notre héritage, on prend aussi possession de la gloire qui habite dedans. Amen. Amen. Les richesses de la gloire dans son héritage. Ma Bible dit qui habite dans les saints. Amen. Les promesses de Dieu sont notre héritage. Là, on a un catalogue de ces promesses. On peut trouver ces promesses partout, 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 partout. Qui habite dans les saints. Oui. Oui. Habite en nous. Hein? C'est déjà donné. Alors, c'est déjà donné à nous parce que c'est déjà donné à Jésus. Comme j'ai dit ce matin, hein? Nous sommes le corps de Christ. Ça, ce n'est pas quelque chose de métaphorique. Ça, ce n'est pas quelque chose de symbolique. Nous sommes vraiment son corps. Nous sommes joignés avec lui. On ne peut pas être séparés. On ne peut pas dire, l'héritage de la tête, c'est là. L'héritage de le corps, c'est quelque chose de différent. Non, ça ne marche pas. Son héritage... C'est notre héritage. Ça t'est déjà donné à Jésus, alors ça t'est déjà donné à nous. Amen. C'est pas réservé, c'est donné. Amen. Nous sommes en Christ. Amen. Comment il peut donner l'héritage à Christ et réserve de nous? C'est pour plus tard. Mais suis-là en Christ. Paul il a demandé comment le Père qui a donné son Fils, comment il ne peut pas nous donner toutes choses. C'est Romains 8. Paul il a dit, ce n'est pas possible. Il a déjà donné Christ. Et toute la vie, toutes les promesses sont oui et amen en lui. Et il a nous donné. Il ne peut pas réserver. Il ne peut pas. Cet héritage est plein de sa gloire. J'ai dit ce matin, en fait, regardez avec moi, nombre. Je crois que c'est chapitre 14. C'est verset 14. Et ça, c'est l'histoire... où Israël a refusé pour entrer le pays de promesse, leur héritage. On connaît bien l'histoire. Hein? 12 espions ont entré le terrain. Tout le monde a vu le même terrain. Tout le monde a vu le même géant. Tout le monde a vu le même problème. Tout le monde a vu la même richesse. 10 a dit, on ne peut pas. 10 a été plus influencé par le problème que la promesse. 2 a été plus influencé par la promesse que le problème. Changez nos pensées alors. Hein? Trop de nous en mentalité des géantes. Il faut qu'on ait une mentalité des promesses. Mais le 12 a dit, le 10 a dit, on ne peut pas, on connaît bien Josué et Caleb a dit, non, on peut aller, on y va. Mais tout le monde a dit non. Et en fait, ils ont commencé pour prendre les pierres pour tuer, hein? Josué et Caleb. L'esprit religieux n'aime pas quand quelqu'un dit, oui, on peut faire ce que Dieu a dit. L'esprit religieux dit, on ne peut pas, et fais attention. Amen. Moi, j'ai rencontré cet esprit. Plusieurs fois, en fait. Et Moïse, le Seigneur, il a été en colère. Parce que les gens ont refusé pour entrer dans leur héritage. Il a été en colère. Il a dit, ça suffit. Je suis fini avec tout le monde. Je vais... Je ne sais pas en français. Exterminer. Voilà. C'est le langage universel alors. C'est ça, hein? Je vais exterminer. Et Moïse, il a dit, non, 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 non. Il a intercédé. Et le Seigneur a dit, OK, je vais pardonner. Mais, ils ont dit, il ne peut pas, ils ont raison, il ne peut pas. Josué à Caleb a dit, on peut, le Seigneur a dit, ils ont raison. Ils vont entrer le terrain. Et c'est là qu'il a dit, verset 20, Nombre 14, verset 20. Le Seigneur, il a dit, j'ai pardonné selon ta parole, Moïse. Verset 21. Comme... Ouais, c'est mieux que tu lis.
Verset 21.
Mais je suis... Chapitre 14. Nombre 14, verset 20-21. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont.
Alors, il dit ici que tous les gens avaient sa gloire. En Égypte et dans l'Exode. Quand ils sont sortis d'Égypte, tout le monde a vu sa gloire. Mais il a dit, il y a quelque chose de plus. Je suis vivant et toute la terre sera remplie de ma gloire. Mais, parce que ces gens, ils ont me testé, ils ont me pas obéi, il va pas voir cette manifestation de ma gloire parce qu'il ne va pas entrer dans l'héritage. Si on reste en dehors de l'héritage, on ne va pas voir sa gloire. Amen. Personne qui a me rejeté, va voir la gloire. Mais, mon serviteur Caleb, parce qu'il a amené par un esprit différent, il va entrer il va voir. Il y a cette plénitude de sa gloire qui réside, qui demeure dans l'héritage. Et quand on entrait dedans, on commençait pour prendre possession de cette gloire, pour laisser cette gloire sortir de nous. Tes promesses, ces promesses. Amen. Regardez avec moi. J'ai les papiers partout. Yahoo! Deux Pierre. Oh, ça va. Merci. Deux Pierre et chapitre 1. Et verset 9. Non, ça c'est 1 Pierre. Ok, 2 Pierre. Et verset 2 jusqu'à 4.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
Ma Bible dit quelque chose un peu différent. Elle dit que, par sa gloire, nous avons été donnés les promesses tellement grandes et merveilleuses par lesquelles nous sommes participants dans la nature divine. C'est comme ça aussi? Amen. Par ces promesses. Amen. Ces promesses nous expliquent notre héritage. Quand on prend possession de les promesses, on entre, on fait participation dans la nature divine. Ça, c'est choquant pour penser comme ça. On a pensé plusieurs choses. Pour participer dans sa nature, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on ne fait pas. Il y a des listes et des listes, des règles et des listes. Et on a fait ça, 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 et on n'a jamais fait participation dans son nature. C'est par ses promesses. Quand on prend possession de ses promesses, de notre héritage, on entre et on fait participation dans son propre nature et sa nature est glorieuse. Amen. Ça, je trouve merveilleux qu'il a me donné les promesses merveilleuses. Je prends possession et déjà je suis béni. Mais en plus, il y a la gloire. Ma vie est bénie. Je peux bénir les autres. Et en plus, je trouve sa gloire qui monte dans ma vie. Amen. Ces promesses, notre héritage, est riche en gloire. Amen. Hébreux 6. Je vais continuer pour frapper cette batterie. C'est tellement important qu'on comprenne. C'est tellement qu'on change comment on pense. Paul l'a dit, cette idée de sa gloire, c'est un mystère. Et bien, c'est vrai, hein? C'était caché de nous. On a pensé plusieurs des choses à propos de sa gloire. Mais il faut maintenant que la couverture est enlevée. Parce que sans sa gloire, on ne va jamais accomplir sa volonté. Jamais. Ça fait quoi? 2000 ans? L'Église a été en existence. Et au commencement, on voit la gloire du Seigneur, on voit l'accomplissement de sa volonté. Depuis, la gloire a été partie et sa volonté un peu, a été accompli, mais c'est évident, hein, qu'on a besoin de plus. Personne ne dispute moi avec ça, hein. C'est évident, hein, on a besoin de plus. Hébreux 6. Et verset 11 et 12.
Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses.
Hein? On désire, Paul il dit, ou peut-être pas Paul, mais en fait c'est le Saint-Esprit. Je désire que chaque personne va continuer avec le même zèle, pleine d'assurance, d'espérance, jusqu'au fin, que nous ne sommes pas fatigués et mais qu'on imitait celui qui, par la foi et l'endurance, a hérité, a pris possession des promesses, de les promesses. Imitait celui qui a pris possession de les promesses. Amen. Les promesses, moi je commence à penser que les promesses sont importantes pour Dieu. Ça commence un peu, hein? Pour changer mon mentalité. Avant, j'ai pensé que la promesse, ça était un peu supplémentaire, un peu écouté. Oui, bien, et si de temps en temps je touche les promesses, ah, c'est merveilleux, ça fait du bien. Mais en fait, nous sommes plus convaincus avec l'idée de souffrance, avec l'idée de la dureté de sa vie, que de temps en temps, on regarde les promesses qui sont là-bas, loin. Et bien sûr, il y a les difficultés. Je ne dis pas qu'on ne va pas avoir les difficultés. Bien sûr, on va. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire que je prêche les difficultés. Je pense qu'on connaît bien les difficultés, hein? On a une vraie révélation, hein, des souffrances, alors, hein? Mais ici, je pense que le Seigneur lui dit, focus pas sur les souffrances, mais sur les promesses. Et même imiter, regarder celui qui marche dans la promesse et fait comme il fait. Amen. Les promesses. C'est un panorama, un horizon merveilleux, plein de tes promesses, de ses promesses. Amen. Pourquoi on regarde là, à le petit truc qui nous empêche, qui nous frappe? On concentrait beaucoup plus là que là. Amen. Et le plus on regarde là, le plus rien ne va changer. Le plus grand ça va être. Mais quand je regarde là, amen. J'ai entendu quelqu'un récemment, je ne sais pas si c'était une cassette ou quelque chose, quelqu'un a dit qu'il n'y a rien de gloire sans les souffrances et rien, et c'est pas des gloires sans les souffrances et pas des souffrances sans les gloires. Et moi, je dispute ça. Moi, je demande, ok, si la souffrance produit la gloire, j'ai une question. Où est la gloire? On connaît bien les souffrances. Où est la gloire? Et bien sûr, la souffrance va arriver, mais Paul, il a dit que les souffrances vont accomplir une proie de gloire lourde dans nos vies parce qu'on ne regarde pas les choses qui sont visibles, mais les choses qui sont invisibles. Ce n'est pas la souffrance, mais où on regarde pendant les souffrances qui accomplit la gloire. Et c'est quoi quand on regarde au milieu les souffrances? Les promesses! C'est quoi que Josué et Caleb ont regardé? Ils ont regardé la promesse! Ils n'ont pas dit,
je ne vois pas des géants.
Mais ils ont été plus influencés par les promesses que les problèmes. Amen. Et ils ont entré dans l'héritage, ils ont entré dans la gloire. Amen. Amen. Lève nos têtes. Le Seigneur dit, hein, c'est somme-toi. Je suis ta gloire et celui qui lève ta tête. Il y a une relation entre la gloire et l'élévation de nos têtes. Comme ça, on ne va pas voir la gloire. Comme ça, on va voir la gloire. Amen. Quand le Seigneur, il élève nos têtes, il nous donne son propre perspective. Pour nous, souvent, les problèmes sont insurmontables. Table. Tout le temps, quand je sais table, c'est tible. Oh, vous Français, alors, hein? insurmontable. Mais de sa perspective, sont petites. En fait, de sa perspective, sont déjà brisées, sont déjà vaincues. Amen. Je continue pour frapper cette batterie. OK. Jean 1. Et moi, j'aime ça beaucoup. Et je vais terminer avec ça. On va regarder le troisième demain soir. Tu peux rester là jusque demain, alors. Moi, je vais dormir un peu, alors. Jean. Et s'il te plaît, si tu restes ici, tu peux prier alors. Hein? Jean. Oh là là. J'étais aujourd'hui chez Isabelle et Patrick. Ils ont m'invité pour aller dans le jardin et reposer un peu dans le soleil. Et j'étais comme ça. Elle a pris la photo. C'est gentil, hein, là, hein? Ouais. Jean 1, 14. Avec les... Elle a déjà dit qu'elle a mis sur sa site internet, alors, hein? Ah, OK. Désolé, j'ai mal compris, alors. Et la parole est venue en chair. Et elle a demeuré, habité au milieu de nous. Et on a... contemplé sa gloire, la gloire comme le Fils unique de Père, plein de grâce et vérité. Hallelujah. Ça parle bien sûr de Jésus. Mais je vais dire quelque chose qui peut-être sera un peu choquant. C'est ça. Il a été le Fils unique, mais il n'est pas encore le Fils unique. Parce que nous sommes tous les fils de Dieu. Amen. Hein? Voilà. Le Fils unique. Il est bien sûr le premier au milieu beaucoup. On comprend bien que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Mais en lui, nous sommes tous les fils de Dieu. Et souvent, quand je parle comme ça, les gens pensent que je fais Jésus plus bas, descendra Jésus. Mais non, pour moi, ça glorifie Jésus. Il a la capacité pour rester le Fils unique. C'est moi. Moi le big boss. Moi le chef suprême. Mais en fait, il a dit non. Je vais identifier avec eux jusqu'à ils sont aussi les fils. Quel sacrifice, hein? Quel amour! Quel amour qu'il a donné sa position, qu'il a partagé sa position avec nous. Quelle gloire. Amen. Il a descendu uniquement. Il a ressuscité avec tout le monde. Hallelujah. Quelle gloire. La parole est venue en chair. Et nous avons contemplé, nous avons vu sa gloire. C'était vrai dans la vie de Jésus, c'est aussi vrai dans nos vies. Amen. Le Père, il voudrait que la parole continue pour venir en chair. Ça dit, quand on apprend les promesses, quand les promesses sont actives dans nos vies, la parole est venue en chair. Et le résultat est le même aujourd'hui que dans le jour de Jésus, la gloire. Et plus que la gloire qui est visible, contemplable, visible, table, voilà. Amen. Quand le Père, il a nous donné sa parole, c'est afin que on peut manger, digester, assimiler, et afin que la parole peut venir en chair. C'est pourquoi il a nous donné ça. C'est pourquoi il a nous donné ça. C'est pourquoi il a soufflé sa vie dedans. Il voudrait que nos vies soient la démonstration, la manifestation de sa parole. Et quand ça arrive, c'est glorieux. Amen. Moi, trop souvent, mentalement alors, hein, je connais l'importance de la parole. Et, mais trop souvent, le matin, c'est un peu comme ça. Il faut que je lis ma Bible. C'est fini, alors je vais au boulot. Je satisfais quelque chose en fait religieux. Et la parole ne va jamais arriver en chair. Mais qu'on prenne et qu'on mange, méditer, confesser, la parole va arriver en chair. Et c'est glorieux. C'est glorieux. Quand ça arrive comme ça. Amen. Alors, dans ma vie, le Seigneur, il a commencé à me freiner un peu. Prends ta temps, Jeff, avec ma parole. Mais pas quand un cours. Un course? Un cours. Race. Course. Prends ta temps avec ma parole comme avec un ami. Mm-mm. Si vous regardez un seul écriture, je préfère que cette écriture vienne en chair, que tu as une tête pleine d'informations. On a les grosses têtes, pleines d'air. La Bible nous dit ça, hein? Que la connaissance nous gonfle. Ma tête est trop grosse, malheureusement. Et c'est là que et les choses commençaient pour entrer plus dans mon cœur. Amen. Là, c'est le centre de production. Et quand on nourrit nos cœurs avec la parole de Dieu, le fruit sera les promesses en manifestation. Le fruit sera sa gloire. Amen. Okay.